Dan Gagnon pour le podcast tout seul, c'est le 19e numéro. Je voulais commencer en glissant un petit mot sur le dernier épisode, le numéro 18. Je sais que le son était différent d'habitude, ça popait, comme on dit, quand les P font un bruit assez désagréable. Et j'ai une explication vraiment logique à ça, c'est pour ça que c'est réglé aujourd'hui. C'est simplement un problème technique, c'est-à-dire que normalement il y a un anti-pop que tu mets sur le micro, et hier je ne l'ai pas mis. Donc voilà, comme la plupart des problèmes techniques, le problème, ce n'est pas la technique. C'était moi. J'ai plein de sujets dont je voulais parler aujourd'hui, et c'est con, mais celui que j'ai le plus en tête, c'est le repas que j'ai mangé ce soir. Il est minuit 8 au moment d'enregistrer l'épisode, et j'ai mangé quelque chose de délicieux grâce à un super cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire qui a lieu il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui s'appelle « The Flavor Matrix ». En gros, c'est un cuisinier qui décide, dans ce livre-là, d'expliquer la logique des saveurs, mais sous l'angle vraiment scientifique, sous l'angle de la chimie. Il prend le pari de décomposer les saveurs pour être capable de trouver les associations les plus judicieuses et aussi les associations les plus surprenantes. Donc, en gros, dans le livre, ça commence avec une explication de chimie. Après ça, ça parle de cuisine et le reste du livre, c'est un livre de recettes. Et aujourd'hui, j'ai cuisiné quelque chose qui était immensément délicieux. C'était un filet de porc assaisonné au café et à la cannelle, mélangé dans des pêches qui ont cuit dans du bourbon et du bouillon de poulet. J'ai l'impression que la seule chose que tu as envie de dire après ça, c'est Camoulox. Mais il y a des raisons, encore une fois, qui viennent de la chimie, qui rendent ça délicieux. Si ça vous intéresse comme recette, envoyez-moi un message. Je vais faire une photo de la recette dans le livre et je vous l'enverrai avec grand plaisir. Mais vraiment, The Flavor Matrix, si tu t'intéresses à la cuisine, c'est intéressant. Tu t'intéresses à la chimie, c'est intéressant. Et tu t'intéresses à la connaissance, de manière générale, c'est intéressant. Donc, j'ai vraiment hyper hâte de tester d'autres choses. Et c'est un de mes plaisirs pendant le confinement. De manière générale, je dirais que depuis janvier, j'essaie d'accepter le fait que l'endroit où je suis dans la vie correspond exactement, pas nécessairement à mes limites, mais à ce que je considère être suffisamment bien pour arrêter de faire des efforts. Et donc, j'essaie de voir jusqu'où je peux aller dans différents domaines si je décide de mettre mes, entre guillemets, exigences trois fois plus loin. Et je fais ça avec la cuisine, entre autres, en me disant, OK, ben regarde, je suis capable de lire, je suis capable de suivre un plan, mais je suis capable de cuisiner mieux que ce que je fais en ce moment. Et le livre que j'ai reçu marche super bien dans cette logique-là. Et ça donne envie de faire vraiment plusieurs tests. Et c'est cool, mais j'ai du plaisir à cuisiner pour plein de raisons. Déjà, je trouve que boire un verre en cuisinant est une des activités les plus intéressantes qui existent. C'est, dernièrement, tu avais Mika qui faisait, le chanteur Mika qui faisait un live sur Instagram. Et il a juste dit cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi elle m'a marqué. Il dit, qu'est-ce qu'il y a dans le vin qui fait qu'il goûte meilleur quand tu es en train de cuisiner? Et je trouvais ça super vrai. Voilà, c'est un mood, certainement. Et donc voilà, j'ai beaucoup de plaisir à cuisiner. Et je me disais justement que c'est finalement les seuls livres de magie qu'on connaisse, ce sont les livres de cuisine. Parce que les recettes, finalement, c'est des formules magiques. Et le résultat de chaque formule magique, c'est du délicieux dans ta bouche. Donc voilà, c'est vraiment de la magie avec laquelle je suis 100% d'accord. Et je suis curieux, tiens, si vous avez des recettes qui sont surprenantes aussi, je suis... en ce moment, hyper chaud pour tester des nouvelles choses. Donc, voilà, des combinaisons surprenantes comme faire une marinade au café avec du porc et le mélanger avec des fruits. Mais je vous assure, c'était un délice et pas juste un... Tu sais, mettons, si tu remplis une recette de sucre et de sel, c'est délicieux. Mais il n'y a pas la finesse, il n'y a pas la définition, il n'y a pas la puissance des différentes couches de goût. Et là, c'était hyper fin. Donc, c'était au risque de me répéter, formidable pour les papilles. Ou comme on dit au Québec, c'était bon dans la gueule. Et en cuisinant et en mangeant, ça m'a vraiment fait rappeler l'importance des moods. Vraiment des ambiances. Comment est-ce que tu peux créer un bon moment à partir de quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance. Juste en trouvant une ambiance qui est juste. Et des fois, c'est tellement pas grand-chose. C'est la manière dont tu vas ajuster la lumière dans une pièce. C'est la boisson que tu choisis de boire. C'est la musique que tu vas mettre en ce moment-là. C'est juste ce à quoi tu penses au moment de faire une action. Genre, en ce moment, je vous le disais hier avec mon épouse qui est bipolaire et pour qui c'est assez difficile en ce moment. Je dois faire plus de choses dans la maison. Je pense qu'on est dans l'absolu, en général, assez bien organisé. On a des horaires, on s'est divisé les tâches. Et là, je dois en faire plus. Et au début, tu fais comme « Ah, je dois redoubler d'efforts. » Et voilà, t'es vraiment dans une logique de dire que c'est difficile. Et souvent, quand je veux m'aider à faire une action, quand j'ai de la difficulté à la faire, je me dis juste, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, quand je vais me souvenir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais en penser? Et n'importe quel moment où tu es capable d'accomplir une action, tu sais qu'un jour, tu vas regarder en arrière avec un peu de tendresse ce moment-là, parce que tu dis, hop, j'étais capable, en fait. J'avais l'énergie, j'avais la capacité, j'étais dans une période de ma vie où je devais faire beaucoup de choses. Et donc, j'ai la chance de vivre un moment qui sera un objet de nostalgie plus tard. J'essaie de faire ça et j'essaie d'éliminer la notion d'objectif. Je me rends compte que souvent, quand je suis fâché, que je suis frustré ou que je suis déçu, c'est que je me suis mis un objectif là où il n'y avait pas lieu d'en mettre un. Et des fois, c'est des détails, des tout petits détails, mais mettons, dans ma journée, je décide que je veux faire 11 choses, j'en fais 10, je suis déçu. Si je me réveille en me disant « Aujourd'hui, j'essaie de faire de mon mieux », eh bien, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas frustré, je n'ai pas l'impression de courir derrière quoi que ce soit, et donc j'arrive à la fin de la journée beaucoup plus satisfait en ayant accompli la même quantité de choses. Mais voilà, quand je me retrouve dans une situation que je trouve difficile, au lieu d'essayer de changer la tâche, j'essaie de changer mon approche. Donc, encore une fois, question de mood. Et tout ça est une formidable transition parce que je voulais vous parler de deux amis à moi qui écrivent des livres jeunesse. Il y en a un qui est dessinateur, une qui est auteur, on dit au Québec, autrice, selon la nouvelle langue. Qui tient en compte du fait que les femmes existent et qui fâche beaucoup de gens apparemment. Ah, j'ai pas envie de dire deux lettres de plus. Je me sens menacé par l'alphabet. Moi, ça me fait honnêtement si des gens pouvaient se fâcher contre moi à cause de l'alphabet. J'avoue que ça me ferait fort rire. Enfin bref. Et ces deux personnes qui s'appellent donc Yann de Haas et Charlotte Belliers, ce sont des Belges, ont pour moi un doigté exceptionnel dans la manière de faire de la poésie. Et quand je dis de la poésie, c'est pas des alexandrins, c'est pas des rimes, c'est la capacité de trouver une combinaison de mots ou une série d'images qui va générer rapidement et efficacement un sentiment, un mot d'une émotion. Ensemble, ils ont fait une série de livres que j'aime bien, entre autres qui s'appelle « Les colères de Simon ». Et si vous avez des enfants, mais vraiment, allez en acheter 14 exemplaires, c'est aux éditions Alice. Et en gros, c'est l'histoire d'un gamin qui, la première fois qu'il n'est pas content et qu'il se fâche, il y a un petit animal semi-féroce qui apparaît à côté de lui. Et plus il se fâche, plus l'animal devient grand. Et il est super content parce que ça lui donne du pouvoir, jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa colère, c'est un dragon. Et à cause de son dragon, personne ne veut jouer avec lui. Et donc, il réapprend à vivre ses émotions d'une manière à pas faire fuir les gens autour de lui. Donc, c'est super beau déjà, visuellement. L'histoire, elle est divertissante. Et évidemment, bon, le fond de l'histoire et le message est terrible. il y a un livre qui s'appelle Super Lumineuse. Je me souviens plus s'ils l'ont fait ensemble ou si c'est juste Yann qui l'a fait, sur une petite fille qui illumine, tout simplement. Elle a vraiment une lumière qui fait qu'elle peut illuminer dans le noir. Elle est hyper contente, elle est fière de sa différence, jusqu'à ce qu'on lui fasse remarquer qu'elle est différente. Et elle va s'éteindre parce qu'elle ne veut plus se faire remarquer, jusqu'à ce que, spoiler, je ne vais pas vous le spoiler, mais c'est un livre qui a gagné des prix. Entre autres, il a gagné un prix au Québec il y a pas très longtemps. Et il est fantastique, mais vraiment un merveilleux livre. Et j'ai parlé de spoiler, je voulais juste faire une parenthèse. Je me suis longtemps posé la question à savoir ce que je pensais des spoilers. Et spoiler au Québec, on a traduit avec, on va dire, ne me spoil pas la série, c'est ne me la divulgage pas. Divulgacher. Je trouve que c'est un très joli néologisme. Encore une fois, je sais, mais principalement pour les Européens, quand vous entendez les expressions québécoises ou les traductions que le Québec a fait de certains mots, vous avez tendance à rigoler, mais autant, genre, Paul Uriel pour junk mail, c'est pas ouf. Autant divulgâcher, je trouve que ça a du panache. Je trouve ce mot vraiment très joli. Et récemment, il est arrivé quelque chose à quelqu'un que je connais. Et je crois que ça m'a permis de mettre des mots sur ce que je pensais du fait de divulgâcher quelque chose. La personne en question discute avec une autre personne et raconte qu'elle aime bien The Big Bang Theory et en est à la saison 10 sur les 12 ou 13 ou 14, j'avoue que j'ai oublié, saison qui est au complet. Et la personne lui raconte plus ou moins la fin. Donc mon ami se vexe en disant « Mais pourquoi tu fais ça? Ne fais pas chier, tu viens de me gâcher mon fun. » Et la personne qui a spoilé lui répond à peu de choses près, « Oui, mais c'est bon, c'est une comédie, on s'en fout que tu saches comment ça finit. Ce qui compte, c'est les gags qu'il y a entre-temps. » Et je trouve que ça illustre exactement très bien tout ce que les gens qui font ça ne comprennent pas. Et la métaphore est la suivante. Non, sur le fond, effectivement, ça ne change rien de connaître la fin d'une comédie parce que ça va être la manière dont les personnages vont se débrouiller, la tension, les gags, etc. Mais c'est exactement la même chose que voir quelqu'un aller chercher un beau morceau de gâteau. La personne avec son morceau de gâteau passe devant toi et dit « Regarde, j'ai un super gâteau, j'ai hyper hâte de le manger. » Et toi, tu regardes le morceau de gâteau et avec ta main, tu tapes sur le morceau de gâteau genre 5-6 fois. Tu fais paf, paf, paf. Et la personne te répond « Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de tout niquer mon beau gâteau. » Et toi, tu lui réponds « Oui, mais ça ne changera pas le goût. » Ce qui en soi est tout à fait vrai, ça ne va pas changer le goût du gâteau, mais tu viens de fucker l'expérience parce que tu viens de gâcher le mood et l'apparence et l'anticipation et l'esthétisme de la chose fait partie intégrante de l'expérience. Et pour revenir à la comédie, non, le fait de connaître la fin ne change pas dans le sens que tu ne connais pas les gags et donc ils vont pouvoir fonctionner sur toi, mais tu viens quand même d'écraser mon gâteau. Et dans toutes les situations qui sont comme celle-là, j'aime juste me souvenir que tu considères que ce soit grave ou pas de divulgâcher quelque chose, n'oublie jamais une chose. Il n'y a aucune conséquence négative au fait de ne pas le faire. Je dis, tu peux choisir de ne pas le faire et ça ne va absolument rien t'enlever. Donc le fait que tu choisisses de le faire, même si le fait de ne pas le faire t'enlevait rien, ben voilà, je te laisse tirer tes propres conclusions sur le type de personne qui fait ça. Et donc, pour revenir au mood et à mes amis Yann et Charlotte et leur livre pour enfants, ils ont annoncé qu'il y en avait un nouveau qui arrivait et juste le titre, je trouve que c'est absolument phénoménal. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain d'avoir le titre exact parce que je suis ce genre de très bon ami. Mais c'est quelque chose dans l'esprit de « Cette nuit, on part en vacances. » Quelle magnifique poésie. Pour n'importe quel Belge, ça a un impact, c'est sûr. Tu sais c'est quoi « Cette nuit, on part en vacances. » C'est de te faire réveiller par ta famille, d'avoir un œil à moitié fermé. C'est de vouloir prendre la route pour aller dans le sud de la France à un moment où il y a moins de trafic pendant la nuit. C'est les arrêts sur les aires d'autoroute à 4 heures du matin alors qu'il fait quand même 22 degrés, mais qu'il fait frais parce que t'as froid forcément parce que tu dormais dans la voiture. C'est le fait d'arriver sur ton lieu de vacances en début de matinée, en fin d'avant-midi, de sortir les valises, d'avoir la personne qui a conduit, aller dormir directement. Et forcément avec les images de Yann, qui est un excellent illustrateur, cette nuit, on part en vacances. J'ai hyper hâte de pouvoir le lire. Et pendant des années où je me rendais compte que j'arrivais pas à ressentir les choses très, très fort, les moments où j'y arrivais avaient forcément beaucoup plus de valeur. Comme s'ils devaient compenser pour toutes les fois où ça marchait pas. Et une des choses que j'ai toujours adorées, c'est rouler la nuit. Spécialement quand la voiture est pleine de gens et que tout le monde dort. Encore plus en été, où tu t'es endormi, quand tu faisais peut-être encore un peu clair, tu étais en short, tu avais un peu chaud, et là la nuit est tombée, tu es un peu plus froid, et toi quand tu conduis, tu vois des gens dans un semi-sommeil aller récupérer soit un chandail, donc un pull pour se couvrir les jambes, ou tu les vois se recroqueviller un peu pour aller chercher la chaleur. Tout est noir sur l'autoroute. La seule lumière qu'il y a, c'est celle de la radio qui t'écoute. Les petites indications de l'heure sur ton tableau de bord. T'entends littéralement le bruit du vent qui frappe la bagnole si la radio n'est pas trop forte. Tu dois essayer de gérer ta propre fatigue. Tu dis, OK, est-ce que je sors à la prochaine aire d'autoroute ou est-ce que je suis capable de me rendre à la suivante? Moi, j'ai énormément de facilité à m'endormir et à me réveiller. Et donc, j'avais fait un deal avec mon épouse quand on devait rouler la nuit. Je lui disais, est-ce que ça te dérange si quand je suis trop fatigué, on s'arrête juste sur l'autoroute, une aire d'autoroute. S'arrêter sur l'autoroute, c'est pas idéal. Sur une aire d'autoroute et je fais une petite sieste puis on repart. Je m'en fous, ça change rien. Donc, j'ai énormément de souvenirs, justement, sur les autoroutes françaises, de m'être arrêté sur une aire, avoir récupéré l'oreiller qui était sur la banquette arrière, mis ça devant moi, fait une sieste d'à peu près 15 minutes. Après ça, je me réveille, je fais le tour de la voiture deux fois et je suis reparti pour une certaine quantité de dizaines de kilomètres. C'est tellement des beaux souvenirs. L'hiver aussi, au Canada, quand tu roules et tu vois qu'il fait froid dehors, mais il fait très froid dehors. Et t'as pas envie d'arriver à la maison parce que tu sais que tu vas devoir faire ces quelques mètres entre la voiture chaude, la maison chaude et le dehors qui est atrocement froid. J'aime beaucoup les podcasts. Je crois que c'est pas une surprise. Et je trouve qu'écouter des podcasts dans la voiture la nuit, c'est aussi un mood exceptionnel. C'est déjà quelque chose de très intime, un podcast. C'est déjà quelque chose de particulier de rouler la nuit, mais de combiner les deux, c'est fantastique. Je me souviens d'avoir été chercher une fois mon épouse à son travail. Finissette travaillait dans les bars à l'époque. Finissette travailler la nuit. Et donc, elle devait être 5 heures du matin, je vais la chercher. Et j'ai roulé après ça. Il y avait 10-11 heures de route pour aller à notre destination de vacances. Et le fait que le soir, pendant qu'elle partait travailler, moi, je faisais une sieste pour pouvoir être en forme, pour pouvoir rouler, c'était particulier. Je disais que j'aime bien quand les gens dorment. C'est vraiment ce sentiment de dire que les gens se sentent tellement en confiance avec toi derrière le volant qui s'endorment. Tu vois, ça me donne l'impression d'être utile et d'avoir une espèce de position sociale aussi, j'imagine. Bref, tout ça pour dire que quand j'ai lu le titre Cette nuit, on part en vacances. Je me suis dit, oh mon Dieu, quel merveilleux livre. Il faut que j'en parle avec des gens que je partage ça. Et Et voilà, je vous conseille grandement quand il va sortir d'aller le chercher. Je sais pour avoir lu plusieurs livres qu'ils ont écrit ensemble que ça va être d'office qualitatif. Petit numéro, petit podcast. J'ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée et on se reparle demain.